Bonjour peuple de l'Épi, nous sommes heureux d'être là avec vous ce matin. Nous vous invitons à vous lever, si vous le pouvez, pour louer l'Éternel. Dans un premier temps, nous allons taper des mains. J'espère que vous êtes prêts.
Fleur de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui, Jésus, tu es. ensemble.
Et on va chanter ensemble, Seigneur de la terre.
Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
Encore une fois, Seigneur de la terre.
Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons.
Notre Dieu est sans égal, on proclame ce matin, on le loue.
Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons.
Passage d'Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce matin, nous vous invitons à le trône de Dieu, rentrer dans sa présence pour l'honorer, le magnifier, reconnaître sa majesté, reconnaître sa grandeur. Prenez le temps de vous souvenir du jour où il vous a retiré de l'épreuve.
Majesté.
majesté. Je reconnais ta loyauté.
Disons-lui encore, je reconnais.
Je reconnais ta majesté.
Dans nos vies, je reconnais ta royauté.
Je reconnais ta royauté.
Une dernière fois, je reconnais.
Éblouis devant toi, éternel.
le temps d'être devant le Seigneur où vous pouvez vraiment lui adresser vos prières. Prières de reconnaissance parce qu'il éblouit votre quotidien, parce qu'il est présent dans les difficultés, parce qu'il est là tous les jours, parce qu'il vous a sauvé. La joie de passer ces difficultés avec la paix dans nos cœurs. Je veux rechanter ébloui. Nous allons le reprendre ensemble. On est ébloui par sa majesté, on est ébloui par ce qu'il fait dans nos vies, dans nos cœurs.
Lorsque l'Éternel s'est présenté à Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était captif en Égypte, il s'est présenté comme le Je suis. Alors il a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Moïse dit alors à Dieu, « Mais ils ne comprendront pas si je dis « Je suis celui qui suis ». Ça ne veut rien dire. » Moïse ne rétorqua pas et le Seigneur lui dit, « Va vers mon peuple et dis-lui, je suis celui qui suis. Mon peuple était alors dans l'esclavage, sous les coups des Égyptiens. Mon peuple ployé sous le dur fardeau. Mais le Seigneur est apparu à Moïse et lui dit : Va délivrer mon peuple et dis-lui : Je suis celui qui suis. Aujourd'hui encore, Jésus n'a pas changé, le Père n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le je suis l'éternité, je suis celui qui suis. Je suis celui qui t'aime, je suis celui qui te connaît, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le je suis. Je suis solution à tes problèmes. Non, ne dis pas, il n'y a personne, je suis abandonné. Non, tu n'es pas abandonné. Je suis celui qui suis. Crois, ne perds pas confiance en moi. Et si j'ai quelque chose à te dire encore ce matin, je suis celui qui suis. Je suis au contrôle de ta situation, quelle qu'elle soit, aussi délicate qu'elle soit, je suis ta solution. Ne craignez pas, mes enfants, ne craignez pas. Je n'ai pas décidé de vous laisser en Égypte. Je n'ai pas décidé de vous laisser sous l'esclavage des Égyptiens, ni de ce monde. Mais j'ai décidé de vous sortir pour vous faire entrer dans le pays promis. Parce que je suis celui qui suis. Je suis d'éternité, je suis celui qui suis. Je suis l'omnipotent, l'omniprésent. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je vous aime, mes bien-aimés. Je vous sortirai de votre ornière. Je vais vous sortir du pays d'Égypte. Alors vous me louerez. Alors vous m'exalterez. Alors vous sauterez comme des veaux dans l'étable, dans leur box, parce que vous connaîtrez la liberté des enfants de Dieu.
Je voudrais soumettre à l'Église cette pensée qui fait suite au don spirituel qui vient d'être donné. Peuple de Dieu, tu vas être victorieux. Peuple de Dieu, tu vas être victorieux, alors reconnais la pensée dans la parole de Dieu. Au début, Adam et Ève étaient soumis à Dieu jusqu'au moment où ils ont décidé d'être orgueilleux et de faire leur propre volonté. Alors considère Jésus. Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui était de toute éternité, le Fils bien-aimé, s'est soumis. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et même au moment le plus difficile de sa vie, quand il était acculé, quand il était près de mourir, il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors peuple de Dieu, si tu veux la victoire dans ta vie de tous les jours, si tu veux la victoire sur toutes les difficultés, il faut que tu te soumettes. Il faut que tu te soumettes à la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Elle est là non pas pour te brimer, non pas pour t'oppresser, mais elle est là pour t'élever, pour te fortifier, pour te faire grandir. Reconnais la toute-puissance de Dieu dans ta vie. Reconnais-le comme le Dieu vivant et vrai. Reconnais-le dans toutes tes voies et soumets-toi à son autorité. Car lui seul est capable de te donner la paix, la joie, le bonheur, la force dont tu as besoin.
Ces jours-ci, tu te sens accablé, oppressé, vacillant entre l'envie de vivre et celle de ne plus vivre. Tu connais le bien, mais tu te sens incapable de le pratiquer, de le choisir, de suivre le chemin qui est bon pour toi. Tu te sens emprisonné. Tu as fait des choix qui t'ont lié et tu vois la situation dans laquelle tu te trouves comme sans issue, comme si les ténèbres qui t'ont environné sont trop grands, trop puissants, et que toi tu n'as pas la force de lutter, de combattre et d'en sortir. L'Éternel des armées te voit, oui, il te voit au milieu des milliards d'êtres humains sur cette terre, et il se soucie de toi, oui, il se soucie de toi. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il te délivre du filet de l'oiseleur. Jésus-Christ est venu délivrer les captifs et la dimension, la taille de tes liens n'est rien pour lui. Il te libère. Aie confiance et crois que Christ est venu t'affranchir et que tu es réellement libre. Viens à lui tel que tu es, dans ta faiblesse. N'attends pas d'essayer de t'en sortir par tes propres forces, tes propres capacités, car tu n'y arriveras pas. C'est en l'Éternel seul que tu es plus que vainqueur, car il est plus grand, oui, bien plus grand que celui qui est dans le monde et qui veut te terrasser, te faire croire que tu es perdu et que tu dois abandonner. Il a tout accompli et ta délivrance est dans sa main. Saisis-la par la foi, ta victoire est là.
Amen. Amen. On veut rester dans cet état d'esprit. On vient d'entendre plusieurs paroles où le libérateur nous dit qu'il est au milieu de nous ce matin. Amen. Alors je voudrais qu'on puisse peut-être se lever encore dans un temps de prière, de proclamation. Peut-être c'est pour toi personnellement ce matin où le Seigneur t'invite à détourner les regards de toi-même, de tes problèmes, des situations dans lesquelles tu es, pour les fixer sur le grand je suis. On l'a entendu ce matin, il est au milieu de nous ce matin, il est présent quand deux ou trois sont assemblés en son nom. Et je crois que Dieu veut encore opérer ce matin. Alors est-ce qu'on peut commencer à élever la voix dans cette salle, s'attendre à celui qui a promis d'être avec nous tous les jours, peu importe les circonstances, les difficultés, les luttes, les combats, il est le même, il n'a pas changé et il est au milieu de nous ce matin. Alors est-ce qu'on peut être une grande cocotte minute ce matin qui élève la voix dans la présence de son Dieu? Il est vivant, notre Dieu est vivant. Le sacrifice de Jésus est encore suffisant aujourd'hui pour toi. Il est celui qui libère des chaînes du péché dans ce lieu ce matin. Il est celui qui libère dans les chaînes de l'addiction dans ce lieu ce matin. Il est celui qui libère de la maladie dans ce lieu ce matin. Ô Saint-Esprit, je te prie de souffler encore. Je te prie de souffler ce matin dans ta présence. Seigneur, on te prie aussi pour celles et ceux, peut-être derrière leur écran, qui sont en lutte, qui sont en proie. Seigneur, tu es là avec eux aussi. Je te prie pour une touche d'éternité ce matin dans ce lieu au nom de Jésus. Ô souffle, Père éternel, manifeste ta grâce, Père. Manifeste ta grâce. Alléluia, Jésus. Proclame ce matin, tu es ma lumière.
Sa parole, il nous donne ses paroles et on va le bénir ensemble avec « Béni soit ton nom ». Vous êtes d'accord ? Amen. Amen.
Façon reggae. Allez, on est tous dans le rythme.
Pas beau ça d'avoir un avant-goût du ciel ce matin, de tout peuple, toute culture, pour louer celui qui nous a sauvés. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges ce matin pour ce que vous nous avez, là où vous nous avez conduits, là où vous nous avez emmenés. J'ai la charge de vous faire quelques annonces ce matin. La première, c'est déjà vous remercier pour votre fidélité dans vos dons, dans le soutien financier que vous pouvez nous apporter. Freddy, dans quelques instants, va venir pour, vous savez, les réductions d'impôts. On arrive au mois où il va falloir faire sa déclaration d'impôts. Donc Freddy va venir tout de suite, mais vraiment, on veut vous remercier pour votre générosité. Vous pouvez vous applaudir ce matin. Si on vit ce qu'on vit, c'est grâce à vous. Si vous êtes nouveau ici et que vous souhaitez aussi nous soutenir, il y a deux moyens de le faire. Vous pouvez nous soutenir directement dans cette salle. Il y a des troncs qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez nous soutenir aussi via le site internet. Tout est expliqué. Donc voilà, merci à vous. Freddy, tu es le bienvenu.
Voilà, bonjour à tous. À compter de dimanche prochain, donc les reçus nouveaux sont arrivés. Donc, je vais vous les distribuer. Hein, faut pas confondre avec le Beaujolais, hein, mais bon. Donc, les reçus, je les tiendrai à votre disposition à compter de dimanche prochain. Et puis, je les aurai aussi dans ma valise tous les autres dimanches, si vous êtes en congé. Voilà, c'est une première chose. Deuxième chose, comme vous le savez peut-être, l'administration fiscale nous demande, enfin nous oblige, à lui communiquer le nombre précis des dons que nous délivrons et puis aussi la valeur totale des dons. Ça, c'est nouveau depuis l'année dernière. Ce faire, s'il y a parmi nous des personnes qui se sont rajoutées à notre communauté, courant du deuxième semestre 2022, si vous voulez des reçus, il faudrait me le dire vraiment à la fin du culte, je me tiendrai derrière, pour les dons que vous avez versés. À l'inverse, si vous ne souhaitez plus de reçus, ça arrive parfois parce que, je sais pas, vous n'êtes pas imposable pour X raisons, dites-le moi aussi, ça me fera un petit peu moins de travail. Hein ? Donc ceux qui habituellement demandaient des dons, ben, si vous n'en avez plus besoin, ben, dites-le moi aussi. Voilà, je suis à votre disposition donc à la fin du culte, derrière.
On peut remercier Freddy, ça fait 38 ans qu'il fait ça. Il a plus d'années de trésorerie que moi j'ai d'années de vie, vous vous rendez compte ? Merci Freddy. Une autre annonce maintenant, c'est celui des groupes C'est Proactif. Vous savez, on a eu une réflexion avec Anne-Marie Husson qui est venue il y a quelques temps sur comment pouvoir briller de l'évangile au sein de mon travail. Donc il y a une annonce, donc il y aura une réunion d'information le mardi 25 avril à 20h30 sur Zoom. Donc si vous vous posez toutes sortes de questions de comment je peux briller au sein de ma profession, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le 25 avril sur Zoom. Une autre annonce maintenant, je vais inviter les mamans. Il y a Vito, Nat et Marie qui ont une annonce à nous faire pour le groupe des mamans en prière. Bienvenue mesdames.
Merci et bonjour à tout le monde. Alors cette annonce, est-ce qu'on a déjà passé le diaporama? Pas encore. Alors cette annonce, elle s'adresse aux jeunes mamans de l'église. Alors Vito, Nathalie, moi, il manque Roselyne, hein, elle est en bas avec les enfants, c'est ça? Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes responsables du groupe de mamans, ici à l'église, voilà. Et nous sommes aussi responsables de représenter aussi un groupe qui est Mère en prière, avec qui nous sommes en union de vision, hein, Mère en prière et en union de cœur, parce qu'il n'y a pas que notre groupe de Mère en prière ici, il y en a un. Dans le Haut-Rhin, il y a plusieurs groupes déjà sur Strasbourg, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin et dans tous les pays du monde. Et c'est chouette de se retrouver avec plusieurs mamans pour prier, pas seulement prier. Le Seigneur nous transforme, il a des choses à nous dire en tant que mère et on a besoin de se laisser transformer autour de la parole. Et donc, on a appris plein de choses tout au fil des années. Il est où la suite? Voilà. Et il y a une chose... Ah oui, c'est vrai, je le vois là-bas. Il y a une chose... qu'on a apprise et pour laquelle on s'est laissé interpeller. Alors, ça fait plus de 10 ans que le groupe existe et on s'est dit on aurait tellement voulu connaître ces choses au tout début quand on était jeune maman. Je pense qu'on aurait gagné du temps, hein, Vito, hein, sur certaines choses. Et puis je pense qu'on aurait appris à être plus sage parce que être maman, ça vient pas tout seul, hein, faut pas croire. On apprend à être maman, on apprend aussi à être des épouses. Et puis on apprend aussi à se dire que qui c'est qui va prier mieux que nous pour les enfants ? Qui va prendre la place qu'il faut ? On ne va pas demander aux autres de prier pour nos enfants. Hein, c'est à nous de prier pour nos enfants. Et c'est chouette qu'il y ait des personnes, les mamans, les parents, qui prient pour les enfants. Et donc on a eu à cœur de transmettre ces choses qu'on a apprises, qu'on a vécues, qu'on continue à apprendre aux jeunes mamans de l'EPI. Et comme on sait que les jeunes mamans, elles sont très prises, parce qu'on sait ce que c'est nous-mêmes, on s'est dit, comment on va le faire ? On va faire un webinaire. Un webinaire à 20h, le soir, quand les mamans et les enfants sont couchés. Les enfants sont couchés. Les papas, à la limite, les papas pourraient prendre le relais à ce moment-là. Et on vous invite, donc on vous invite à nous rejoindre à 20h le 2 juin. C'est un vendredi, on l'a mis en fin de semaine, le 2 juin. Et donc, vous pouvez vous inscrire, vous voyez, on est aussi informatiquement, on grandit aussi dans le groupe. Hein. Voyez, on a fait, ça s'appelle comment, c'est un code, un QR code, voilà. Fallait qu'on le fasse. Non, mais on a demandé, écoute, on sait, voilà. Et donc, on a un QR code. On a utilisé les papas pour le faire. Et donc, il faut, vous savez comment on fait, hein, le QR code. Hein. Donc, vous pouvez y aller pour vous inscrire. Et puis, toutes les manières, Vito, moi et Nathalie, on sera à la sortie et au programme, au programme. Voilà, qu'est-ce qu'on a prévu au programme? Ben, on a prévu déjà de vous présenter le groupe de Maman de l'Épi, la vision, ce qu'on fait. Et ce qu'on a prévu également, c'est que nous dit la Bible au sujet de l'appel des mamans à prier pour leurs enfants. On a besoin de faire le point ensemble là-dessus. On va vous faire découvrir aussi ce qu'on a découvert, la dynamique de prière d'un groupe de mamans. Il y aura des témoignages également, il n'y a pas mieux que le vécu de témoigner. On répondra à vos questions et puis on verra pour les mamans, les jeunes mamans qui veulent comment s'organiser et puis on terminera par la prière. Voilà ce qu'on avait à vous dire toutes les trois. Et donc à la fin de la sortie, n'oubliez pas, on sera là pour vous remettre un prospectus parce qu'il y a un QR code qu'il va falloir scanner.
Merci. Merci pour vos prières, elles sont précieuses. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ma mère qui s'est tenue à genoux pour qu'un jour je donne ma vie à Jésus. Donc les mamans, votre travail est précieux. Il se voit pas forcément, mais il est précieux. Il y a des batailles qui se remportent sur nos genoux. Et merci pour cela. Une autre annonce maintenant, vous savez, on a le festival évangélique les 10 et 11 juin. Je vais pas refaire toutes les annonces, vous l'avez eu, mais il y a, vous devez absolument vous inscrire. Hein. Vous savez que il y aura pas de célébration ici le dimanche 11 juin. Ce sera avec tous les évangéliques du 67 et du 68 au parc de la Citadelle. C'est gratuit pour le dimanche, mais il faut absolument vous inscrire. Les places sont en train de partir vite, donc ne manquez pas ça. Et le samedi soir, pour ceux qui aiment la louange, il y aura une grosse soirée de louange avec tous les artistes connus du moment. C'est pareil, c'est sur inscription. Vous avez toutes les infos sur le site Festival. Voilà, une dernière information. J'ai invité PS à s'approcher et l'équipe de visite de l'EPI.
Voilà, est-ce que les gens de l'équipe de visite pouvaient venir? Je sais s'il y en a quelques-uns qui sont là. Je sais que tout le monde n'a pas pu venir. Alors, pour que vous sachiez, depuis quelques temps, venez là qu'on vous voit bien. Je sais qu'ils n'aiment pas trop être sous le feu des projecteurs. On va le faire une fois, puis après on arrêtera, d'accord? Après, vous voulez qu'on éteigne les projecteurs? Voilà, on a toute une équipe visite là qui nous rejoint. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, parce qu'ils font un super travail? Alors, vous les connaissez peut-être pas, mais ils travaillent dans l'ombre. Toute cette petite équipe a suivi 3 formations. Et va régulièrement visiter les gens qui sont seuls, les personnes âgées, les gens qui demandent des visites, les gens qui ont besoin d'être accompagnés. Ils sont le bras de l'équipe pastorale, on peut le dire, parce qu'ils font des visites de courtoisie, ils vont les encourager, ils vont les soutenir. Et durant quelques mois, là, on a travaillé pour préparer cette équipe et l'étoffer de façon à ce qu'on ne puisse oublier personne à l'EPI. On sait qu'on est une grande église et on sait que dans cette grande église, parfois, il y a des gens qui sont isolés, qui sont seuls et qui n'ont pas forcément cette possibilité d'avoir une visite. Et comme beaucoup aimeraient que les pasteurs y soient tout le temps, mais on a aussi plein de missions avec l'équipe pastorale. Et du coup, on a besoin d'avoir des relais, des gens en qui on a vraiment confiance. Et des gens qui vont témoigner et partager le cœur de l'EPI et surtout le cœur de Jésus à travers des visites, à travers des encouragements. Et toute cette équipe-là, elle a été formée depuis quelques mois maintenant et elle se prépare à aller, elle le fait déjà bien sûr, mais on voulait vraiment les honorer pour leur travail et pour tout ce qu'ils vont faire encore dans l'année. C'est officiellement ce matin le lancement de ce groupe de manière très officielle, même si le travail a commencé avant. Et on aimerait prier pour eux. Est-ce que vous êtes OK pour prier pour eux? Je crois qu'on a besoin d'eux. Et le jour où c'est vous qui n'allez pas bien, vous nous passez un petit coup de fil, on dit, hey, on va vous envoyer quelqu'un de l'équipe de visite, ils arrivent, ils vous bénissent, ils vous encouragent, ils ramènent un petit gâteau, on vit un temps de qualité et on grandit dans la foi ensemble. Alors, je pense qu'on a besoin de prier pour eux, de les soutenir dans la prière, c'est une vraie mission, c'est un vrai appel, c'est un vrai ministère que d'aller soutenir, prendre soin de ceux qui sont isolés et seuls. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble, qu'on prie? Je vais demander à Michel si tu veux bien prendre le temps de prier pour eux.
Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour les frères et sœurs qui s'engagent avec nous, à nos côtés, à côté de l'équipe pastorale, de l'équipe du conseil spirituel, du conseil d'administration, tellement reconnaissants pour chacun et chacune. Nous prions afin qu'ils soient une bénédiction pour l'Église et lors de chaque visite qu'ils puissent encourager, fortifier la foi des uns et des autres. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin d'être encouragés les uns au travers des autres. Alors merci de faire de toute cette équipe un moyen d'encouragement, de bénédiction, d'édification pour la construction de la foi des uns et des autres. Merci de bénir l'EPI et de bénir aussi ces temps de visite pour ta gloire, pour l'avancement également du royaume de Dieu dans notre région, dans notre Eurométropole et partout où tu nous appelles à être présents et à rayonner de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci Michel, merci. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Merci, c'est bon, pas besoin d'éteindre le projecteur. Et je le rappelle aussi, mais c'est important, si vous sentez seul ou que vous avez des moments où vous avez besoin d'être visité, d'être accompagné, c'est pas une faiblesse. Parfois, on a besoin d'être entouré. Alors, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe pastorale, vous appelez au secrétariat et on vous redirige, on vous envoie des gens qui viennent prendre soin de vous, même si vous êtes en ligne et que vous ne pouvez pas vous déplacer. N'hésitez pas, mettez-nous un petit message, on sera une joie et l'équipe visite, ce sera une joie de venir vous voir. Ça va? Ok, vous allez bien ce matin? On a déjà vécu des temps forts là dans la présence de Dieu. Hein. Amen. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Prendre « Béni soit ton nom » en reggae. Franchement, enfin, moi je vais en parler à l'équipe pastorale. Parce que là, conseil spirituel. Parce que alors là, on a toujours fait comme, on a toujours fait classique, et là, qu'est-ce qui change? Franchement, enfin, je sais pas. Le staff louange entretient mon bureau. Pas avec moi, hein, avec Michel, directement, avec Mathieu même. C'est une blague. J'ai vraiment bien aimé. Ça vous est déjà arrivé de dire, on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on fait autrement. Mais oui, ça nous arrive parfois de réfléchir et de penser comme ça en disant, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi on a besoin de changer? Pourquoi il y a besoin de faire différemment? Après tout, c'est bien. Moi, je chante béni soit ton nom, je l'aime bien dans une autre façon. Pourquoi il change? Et j'aimerais vous parler ce matin de cette question de la systématisation. On le dit ensemble? Systématisation. Oh, vous êtes très fort. Bon, c'était pas compliqué, mais quand même. Pourquoi j'aimerais vous parler de ça? Le titre de mon message est celui-ci. Systématisation, attention, danger. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et je me permets de vous poser quelques questions. D'après vous, qu'est-ce que c'est que la systématisation? Et j'ai besoin de vous là maintenant. Les habitudes. Quand c'est automatique. La routine, faire toujours la même chose. Les enfants, vous avez le droit de réfléchir aussi, parce que le mot, il n'est pas forcément facile. Hein. Les ados aussi. Hein. La systématisation. La rigidité. Ouh. Sans réflexion. Waouh. Intéressant, j'aime bien. Pardon? Le manque de flexibilité. Ouais, très intéressant. Vous avez compris, ensemble, vous avez compris un petit peu ce qu'est la systématisation. On va essayer de voir ensemble en quoi, ce matin, la systématisation, le fait de faire les choses toujours de la même façon, de manière systématique, peut être un danger. Et je voudrais éviter de rentrer dans un extrême en disant que c'est tout mauvais ou tout bon, mais qu'on puisse essayer de trouver un juste équilibre dans la question de la systématisation. Alors, on va essayer de la définir dans un premier temps, ensuite on verra est-ce que vraiment ça nous concerne, et puis après on verra un petit peu les dangers plus en détail, et on trouvera ensemble des pistes de solutions vers la fin du message, pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça au final? Mais je veux vraiment vous encourager à rester bien attentifs, parce qu'on va essayer de démonter quelques principes dans lesquels nous sommes rentrés depuis des années, moi le premier, pour essayer de rentrer vers là où Dieu nous attend, à savoir une vraie liberté. On y réfléchit ensemble. Alors, je vous propose cette première partie, la définition de la systématisation. Je vais vous donner trois définitions. La première, la systématisation fait référence au processus de création ou d'établissement d'un système ou d'une structure organisée. Cela peut inclure la création de systèmes de pensée, de modèles conceptuels pour expliquer des phénomènes, ainsi que la création de structures organisationnelles pour des entreprises ou des organisations, virgule, des églises peut-être. Ça va pour la première définition? Deuxième définition. En psychologie, la systématisation se réfère souvent à une tendance des individus à chercher des schémas et des règles dans leur environnement, à analyser les systèmes complexes et à les comprendre en termes de principes et de lois. Cette tendance est souvent opposée à la tendance à l'empathie, qui implique la compréhension et la prise en compte des émotions et des sentiments des autres. Là, on est plus centré sur l'individu, sur le chrétien, sur la personne. Troisième définition. Dans les sciences sociales, la systématisation peut également se référer à la création de modèles théoriques et d'outils d'analyse pour étudier les comportements humains et les processus sociaux, ainsi qu'à l'application de ces modèles et outils pour mieux comprendre et résoudre les problèmes sociaux. Et là, on parle de relations entre nous. On a parlé de système, on a parlé de l'individu, et ensuite on parle de relations. Ça va jusque-là, je ne vous ai pas perdu ? Rassurez-vous, c'est que le début. Ma première question est celle-ci, pourquoi parler de systématisation ? Eh bien, je crois que la systématisation, c'est quelque chose qui peut être un danger pour notre foi, et qu'elle a des conséquences et des implications à la fois sur notre vie, mais aussi sur notre foi. Et je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Et ma question suivante, c'est est-ce que la Bible parle de la systématisation ? Finalement, est-ce qu'il y a des choses qui se reproduisent de manière régulière, systématique ? Est-ce qu'on voit des choses qui ont lieu toujours de la même façon ? Ben, si on prend la définition qu'on vient de voir, on peut remarquer que la création d'un système de pensée ou d'une structure organisée, ça existe bien. Dans l'Église, par exemple, aujourd'hui. De même, lorsqu'on organise une célébration, comme on l'a vu là, on a bien un fonctionnement, un système qui se reproduit chaque dimanche. Et qu'on le veuille ou non, dans notre tête, on a des schémas et des règles de fonctionnement. Et on met en place des principes et des lois qui fait qu'on peut se retrouver dans un but commun. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a l'habitude. Et quand on est confronté à d'autres systèmes ou d'autres façons de penser, parfois on est un peu bouleversé. La preuve, quand on prend un chant dans un autre rythme que ce qu'on a l'habitude d'habitude. Ça fait deux fois d'habitude, mais vous avez compris l'idée. Tout n'est pas mauvais dans la systématisation. Mais j'aimerais qu'on parle justement des dangers de la systématisation. C'est le titre de mon message, des dangers. Pourquoi ? Parce que, à force de tout systématiser, je vais rebondir sur ce que vous avez dit un petit peu dans l'auditoire, on peut tomber vers la rigidité, le manque de flexibilité, le fait qu'on s'enferme dans des façons de penser. C'est toujours comme ça que ça doit se passer. Et Jésus nous en parle un peu, en fait. Et on va essayer d'y réfléchir. Mais juste avant, je vous partage une expérience. Vous voulez bien ? C'est parti. Quand je me suis mis en couple avec celle qui est mon épouse aujourd'hui, on avait deux visions sur la réalisation du plan de Dieu. Et ça, c'est une grosse question, le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme pour une femme que Dieu a tout prévu ? Est-ce que finalement, il y a plusieurs personnes ? Ça, vous en discuterez avec d'autres personnes. Mais moi, dans ma conception à moi, Dieu se révélait à moi à travers des signes et des prodiges. En gros, j'attendais que Dieu me dise, d'une manière claire et précise, « Lise sera ta femme !» Et c'est jamais arrivé. Et puis, de l'autre côté, ma femme, qui a été élevée dans un autre système de pensée, elle dit « Non, mais on peut marcher par la foi, allons-y, on fait un pas de foi, même si on n'a pas tous les signes et tout, on y va. » Mais le soir d'avant où je vais la voir, elle me dit enfin, elle ne dit pas à moi, elle dit à Dieu, s'il ne vient pas me voir demain, j'arrête tout. Qu'est-ce qui se passe ? Vous doutez que si aujourd'hui je suis marié avec 4 enfants, c'est qu'à un moment, j'ai fait le pas le lendemain. Et c'est très étrange comment Dieu est venu me challenger sur mes propres conceptions, et la challenger sur ses propres conceptions, dans le sens où on avait deux visions différentes de comment devait s'appliquer la façon dont Dieu nous parle. Et Dieu, moi, est venu me parler en disant, il y a un moment, tu dois faire un pas de foi, même si tu n'as pas tous les outils, et tu dois prendre en compte aussi que tu as des sentiments, qu'elle te plaît, qu'il y a des choses que je t'ai donné un cerveau pour réfléchir et que ça correspond. Et puis, de l'autre côté, Dieu aussi est capable de parler à travers des signes, à travers des directions claires, à travers des prodiges et des façons de parler très claires de Dieu. Et en fait, la systématisation, c'est quand tu restes que dans un sens ou que dans l'autre. Tu dis, c'est que comme ça que ça peut se passer ou c'est que comme ça que ça peut se passer. Et c'est ça le danger. Pourquoi ? Parce que le jour où ça ne se passe pas comme tu veux, ben là, tu es déstabilisé. Regardons ensemble un texte qui se trouve dans Marc, chapitre 2, verset 23. Marc, chapitre 2, verset 23. Un jour de sabbat, quelque chose qui a été institué par Dieu de manière régulière, le temps de repos, on va en parler un peu plus après, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi des disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là » Et il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque ses compagnons, lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiathar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger et il en a donné aussi à ses hommes. » Et il ajouta, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Ce verset se trouve dans le contexte où Jésus, ils sont accusés de violer la loi en cueillant des épis de blé. Et Jésus va répondre à cette accusation en soulignant que le sabbat a été créé pour le bien de l'homme, pour lui donner du repos et de la nourriture et non pour une règle rigide à suivre à tout prix. Et la question du sabbat, on sait qu'elle est importante dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. C'est une loi qui a été donnée pour les hommes. Mais force est de constater que la loi est détournée pour autre chose, pour une systématisation, pour un système au profit de ce pourquoi elle a été créée, l'homme. Et Jésus ici vient nous challenger, en tout cas vient challenger les pharisiens de l'époque, pour leur dire que finalement ce qui importe à Jésus, c'est que la miséricorde et la compassion soient directement lié à l'application de la loi. Et tu peux être très strict dans l'observance des lois du sabbat, mais ce qui prime, c'est le bien-être et les besoins de l'homme qui sont plus importants que le strict respect de la loi. Mon point suivant est celui-ci. Alors du coup, est-ce que moi, là on voit Jésus avec le sabbat, avec les disciples, est-ce que ça me concerne moi finalement ? Est-ce que moi j'ai des systèmes de pensée ? Eh bien, on vit tous avec des systèmes de pensée, je l'ai déjà dit. Et parfois, on a tendance à être rigide, bloqué, parce que ça ne se passe pas exactement comme j'ai prévu. Est-ce qu'on est sûr d'avoir la bonne interprétation des textes bibliques ? Parfois, des fois, on est quand même un peu hésitant. Hein. Parfois, on a besoin de gratter, de lire des livres, de se renseigner, de lire différents analystes et de lire différents commentaires. Et c'est ça qui est bon, en fait. Mais est-ce que parfois, on n'a pas tendance à mettre, nous, sur nos propres vies, des règles rigides qui nous empêchent d'être libres ? Des règles qui nous disent c'est comme ça que ça doit se passer et si ça ne se passe pas comme ça, j'y arriverai pas. Et je vous donne cet exemple, si Dieu, et je le disais tout en introduction avec l'exemple de Lise et moi, si Dieu ne me parle pas exactement de cette façon, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais si Dieu avait choisi de te parler différemment ce matin, et si Dieu avait choisi de dire que les circonstances que Dieu a mises en place vont se servir à ce que Dieu te parle dans la situation par laquelle tu es en train de passer, et si Dieu décidait de changer ce que tu as toujours connu, pour t'amener dans un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, la sienne. Et si ce matin on avait besoin ensemble de dire « Seigneur, j'ai besoin de faire tomber certains principes qui m'ont toujours tenu pour apprendre à être davantage à l'écoute du cœur du Père, de celui qu'on appelle le « Je suis » dont on a déjà entendu parler. Si ce matin j'étais prêt à dire « Mais si ça change un peu au niveau du rythme de la chanson, c'est pas si grave que ça parce que ce qui m'importe c'est de dire « Béni soit ton nom ». Vous comprenez ce que je veux dire ? Et je pense qu'on est tous un peu, moi le premier, dans un système de systématisation et qui parfois nous bloque. Permettez-moi de citer quelques dangers de la systématisation. Qu'est-ce que ça provoque ? Le premier, c'est que le danger de la systématisation, le premier danger, c'est que tu limites, et je limite, Dieu dans une conception humaine. C'est-à-dire que je prends Dieu, qui est grand comme ça, et même mes bras ne sont pas assez grands, et j'essaie de le mettre dans ma façon de penser, dans mon raisonnement, dans ma logique à moi. Pourquoi ? Parce que c'est la seule chose que je connais. Et donc j'enferme Dieu dans une compréhension limitée, voire erronée, qui est fondamentalement humaine. Je vais vous donner un exemple très clair. Si vous comparez l'amour de Dieu à l'amour qu'un homme ou une femme peuvent avoir dans le cadre d'un mariage, l'amour de Dieu est limité. Parce qu'on est deux hommes et femmes imparfaits. Deux humains dans le sens. Je ne fasse pas de... Deux humains, imparfaits. Vous avez compris ? Même si l'amour est fort dans un couple, il ne sera jamais à la hauteur de l'amour d'un Dieu parfait, un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. C'est pour ça que quand tu es au bout du bout de ta vie et que même tu as été t'as péché, et même que ta vie elle semble complètement un échec total, l'amour de Dieu est encore capable de venir te chercher. Alors que l'amour humain est forcément limité. Et en réalité, quand on bloque Dieu à la façon dont on perçoit Dieu avec des yeux humains, forcément, au fond, on limite la capacité de Dieu à agir. dans nos vies. Deuxième point, on a dit qu'elle limite Dieu à un système. Deuxième point, elle enferme l'homme dans des rites et des traditions. Quand on lit le texte de Marc, c'est assez clair en fait. Le sabbat, il est fait pour l'homme, pour son bien, pour sa vie intérieure. Mais c'est donc une institution digne de Dieu et de sa miséricorde. Mais ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat. Écoutez bien, l'homme n'est pas fait pour le sabbat car l'homme a été créé libre pour l'obéissance de l'amour et non pour la servitude d'une ordonnance cérémonielle. Je m'explique. Qu'est-ce qui te pousse à obéir à Dieu ? Le fait que Dieu te dise c'est comme ça et c'est pas autrement, ou son amour pour toi ? La réalité, c'est que plus on vit avec des rites, plus on vit avec des traditions, plus on vit avec des systèmes qui nous bloquent, plus on rentre dans un système de culpabilité. Pourquoi ? Parce que tu n'arrives pas à avancer, en fait. Parce que tu n'es jamais à la hauteur des principes de Dieu. Et moi non plus. Et nous non plus. Parce que ce qui importe en réalité, ce n'est pas un ensemble de principes et de règles, c'est de comprendre pour qui elles sont faites et par qui elles sont faites. Et on en parlera un petit peu plus loin. De l'autre côté, un autre danger de la systématisation, c'est qu'on va utiliser une expérience qu'on a vécue, puis on va en faire un principe. C'est comme ça que je l'ai vécu, donc c'est forcément comme ça que ça doit se vivre pour les autres. Je vais vous donner un exemple qu'on aime bien ici à l'église. La Sainte Cène. Alors moi, quand j'étais enfant, il y avait un truc génial, mais alors pas Covid du tout. Mais alors pas du tout. Tu prenais un gros gobelet, qui c'est qui a connu ça ? Ouais ? Et on mettait le vin dedans, et on passait le gobelet à tout le monde. Heureusement que Jésus, il était là quand même pour protéger un peu des microbes. Il y avait un sens, attention, je m'explique, il y avait un sens. D'accord ? C'est qu'on partageait vraiment ensemble le pain et le vin, il y avait du sens derrière. Je ne suis pas en train de mépriser ce qui a été fait, attention. Je le dis avec humour, mais je ne méprise pas. Et puis, de la coupe qu'on a partagée avec tout le monde, on est passé au petit gobelet. Et déjà là, il y a eu des tensions. Parce que c'était moins spirituel de prendre dans des petits gobelets que de prendre dans la coupe. Et puis, des petits gobelets, on est passé à tous les dimanches, à une fois par mois. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'épi. Mais alors là, oulala, on n'est pas spirituel non plus là. Parce qu'on a la considération, et ce qu'on pense au niveau de l'épi, par rapport à ça, c'est que la Sainte Cène, c'est quelque chose tellement d'extraordinaire quand on le vit tous ensemble, qu'on ne veut pas le ritualiser en disant on fait ça toutes les semaines par habitude. Mais on veut prendre le temps de saisir le dimanche où on le fait, le sens réel de la Sainte Cène. Et pas simplement une habitude de quelque chose qu'on fait régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens dans l'église qui viennent le dimanche exclusivement pour la Sainte Cène. Et on en fait une tradition, une habitude. Comprenez bien que je ne suis pas en train de démonter, je le redis, tout ce qui a été fait avant. Je dis juste qu'il faut qu'on réfléchisse pourquoi on fait les choses. Et quand on prend un vécu et qu'on en fait un principe, on est en train de systématiser l'Église. Et du coup, si quelqu'un ne fait pas comme nous, ben ça te bloque et ça me bloque. Vous me suivez ? Je vais aller plus loin. Je crois que la systématisation peut empêcher la foi de se développer. Pourquoi ? J'aimerais prendre un exemple, et c'est dans le don spirituel, ça a été partagé ce matin. J'aimerais prendre l'exemple du peuple d'Israël et de l'Égypte. Vous avez tous lu l'histoire du moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, ça va ? Avec Moïse à sa tête, c'est bon ? Et puis il sort, et puis il se retrouve dans le désert. Mais le désert, ça ne ressemble pas à l'Égypte. Parce que dans le désert, et c'est le texte qu'on va lire, la Bible nous dit, Exode 16, 2, « Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Et ils leur dirent, « Pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte ? Nous étions installés devant des marmites pleines de viande, où nous mangeons du pain à satiété, tandis qu'à présent... Vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Intéressant de voir que le système dans lequel ils étaient en Égypte semble mieux que le désert dans lequel Dieu les a amenés. Ce qu'on peut comprendre parce que matériellement, ça a du sens. Mais la réalité, c'est que parfois, si tu restes tellement dans ton Égypte, dans ta façon de penser, tu ne peux pas découvrir ce que Dieu veut t'amener à vivre, comment Dieu veut t'amener dans un nouveau chemin de foi. Même si ça ressemble au désert, parce que dans le désert, Dieu pourvoit. Peut-être pas de la façon dont tu as toujours connu l'Égypte, mais dans le désert, Dieu va t'amener à découvrir autre chose. Comment Dieu est capable de pourvoir dans le domaine du miracle. Et je veux vraiment nous encourager. Parfois, on sort de l'Égypte en se disant « c'est bon, je suis sorti de cette mentalité ». Mais en réalité, on prend la mentalité de l'Égypte et puis on la transfère dans le désert. Et dans ce même désert, on rappelle tout ce qu'on vivait dans l'Égypte. C'est exactement ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Quels sont les principes, les lois qui régissent ta vie, que tu as encore emmenées et que tu n'arrives pas à t'en sortir dans ton désert parce que tu restes arrêté en arrière? Tu restes bloqué sur ce qui était avant. Ça t'enferme, ça enferme ta foi. La systématisation enferme, empêche notre foi de nous développer. Enfin, la systématisation a une capacité à rassurer nos peurs. Bah oui, parce que quand ça se passe toujours comme ça, c'est plus facile. Je vous donne un exemple. J'étais prof pendant des années, et quand j'étais dans un collège à Saint-Dizier, quelqu'un connaît Saint-Dizier dans la Haute-Marne? Mon papa, il connaît. Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Ok, c'est par là. Là. Voilà, à peu près. Dans le 52. Et Saint-Dizier, dans la Haute-Marne, c'est mon premier poste, et je suis dans une ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et quand c'est ton premier poste en ZEP, bah, tu transpires à grosses gouttes. Parce que tu ne sais pas comment faire avec ses enfants. Et à ce moment-là, j'ai la pire des classes, franchement, la troisième D. Et la troisième D, c'est la pire classe du collège, tout le monde le sait. Et franchement, je me fais retourner ma classe à chaque fois. Impossible de faire cours. Si j'arrive à avoir 10 minutes à peu près de calme dans une heure de cours, je suis heureux, je suis content. C'est compliqué, j'y arrive pas, voilà, je sais pas faire. Et c'est ma première année, c'est normal. Et puis t'as des gamins, ils ont 12 ans, ils te regardent droit dans les yeux. Et puis ils te tutoient. Et là, t'es là, tu te dis, mais c'est écrit dans quel bouquin ce que je dois faire, là? Et t'es vraiment déstabilisé. Et à ce moment-là, je rencontre un collègue que j'ai vraiment appris à apprécier et qui est vraiment génial, qui lui aussi a la troisième D. Et lui, il est en histoire et moi, je suis en anglais. Et il me dit, PS, ce que je te propose, c'est que je vienne dans ta classe et tu viennes dans ma classe, avec la même classe, et on voit comment ça se passe. Alors lui, il vient dans ma classe, je le vois sourire gentiment. Je ne sais pas ce qu'il devait dire dans sa tête, mais ça devait être tellement compliqué pour lui. Il devait se dire, le pauvre, il est vraiment en train de galérer. Et moi, après, je vais voir dans sa classe. Je vous dis, c'est pas la même classe. C'est les mêmes élèves, mais c'est pas la même classe. C'est un truc de fou. Le gars, il maîtrise cette classe comme j'ai rarement vu quelqu'un. Mes pires élèves, moi, dans ma classe à moi, avec lui, c'est ceux qui participent, s'il te plaît. Moi, je demande pas qu'ils participent, je demande juste qu'ils restent cool. Et alors, je lui demande, je lui dis, Laurent, comment tu fais? Explique-moi. Et on a vraiment lié d'amitié, parce qu'après, on a fait du vélo de la foi ensemble, on a partagé la foi, c'était génial. Mais et il me dit, tu sais, PS, il y a un truc qui est vraiment important pour les élèves, c'est le système des rituels. C'est quoi un rituel? C'est quelque chose que tu fais régulièrement, et que les élèves savent que quand ils rentrent dans la classe, c'est comme ça que ça se passe. Et que s'ils transigent sur ce rituel, sur quelque chose qu'on fait régulièrement, eh bien, ils savent la sanction qui en suit. Et effectivement, son cours est toujours construit de la même façon. Le rituel rassure les élèves et donc leur permet de pouvoir progresser. Mais le rituel n'a aucun sens s'il n'est pas mis au bénéfice de l'enseignement, de l'élève, de ce qu'il a besoin. Si tu fais que des rituels pour des rituels, ça n'a pas de sens. Mais si tu vises à travers le rituel l'élève, alors là, ça a du sens. Vous me suivez ? Et en fait, ce qui m'a amené à comprendre que dans ma classe, moi, c'était un peu le bazar parce que j'avais pas d'habitude, mais les élèves savaient pas ce qui devait se passer. Et donc, j'ai travaillé sur les rituels. Je reviens à mon message parce que vous pouvez dire, il est un petit peu dégraissé, mais digressé. Mais en réalité, les systèmes, ça rassure. Quand Jésus fonctionne toujours de la même façon, si tant est qu'il le fasse, ça rassure. Vous me suivez? Et regardez, on a tous une tendance à vouloir systématiser, comme ça on est rassuré. Je vous lis cette citation qui est extraite d'un livre qui s'appelle « Sur les routes d'une sagesse nouvelle », le livre de Job, de Frédéric de Coninck. Ça parle de Job, ok? Job et les trois amis. Tout le monde connaît l'histoire de Job? Oui? Ok, si vous ne la connaissez pas, c'est dans la Bible. Du coup, Job, il perd tout, ok? Et je vous la fais très très vite, il perd tout, puis il y a trois amis qui viennent, et puis après un quatrième, et puis les trois amis et le quatrième ensuite essayent de trouver une solution pour lui, puis à la fin on se rend compte que ce n'est pas vraiment la vraie solution. Voilà. Les trois amis et leur jeune émule apparaissent comme des personnalités rigides. Ils restent dans leur système et tentent de le plaquer sur la réalité. Derrière cette rigidité, je discerne la marque de la peur. Ils s'enferment dans leur rigidité pour mieux se protéger d'une situation qui les inquiète. En réalité, vu qu'ils ne savent pas trouver le pourquoi Job est en train de vivre ça, il vaut mieux leur donner des principes comme ça, moi-même je me protège. Quand on ne maîtrise pas une situation, c'est préférable d'avoir un système qui nous rassure. Mais en réalité, ils traduisent nos peurs ou nos incompréhensions. Deuxième citation, les amis cherchent à mettre une distance maximale entre Job et eux. Ils élaborent, on l'a dit, un système où Job n'a que ce qu'il mérite. Mais chacun reste dans sa case. Ils sont pour leur part du bon côté de la barrière, tandis que Job a fauté. Ce désir forcené de différenciation révèle une peur dévorante de la contagion. Bah oui, parce que lui, là, Job, il s'est vraiment planté. Mais moi, non. Et moi, je suis bien parce que j'ai mes principes et mes raisonnements. Mais Dieu, dans l'histoire de Job, à la fin, va complètement démonter les principes et les raisonnements de ces trois hommes-là. La réalité, c'est que la systématisation, elle nous enferme, elle nous bloque et elle traduit nos peurs. Vous me suivez ? Et en fait, on est un petit peu comme ça parfois. Parce que si ça se passe pour lui, c'est peut-être qu'il a fait quelque chose de mal. Encore une peur par rapport à ça, c'est aussi la peur de perdre la bénédiction. Si à un moment je déroge d'une règle qui est écrite dans la Bible, ou en tout cas que je lis dans la Bible, est-ce que je ne vais pas perdre l'approbation de Dieu ? Est-ce que je ne vais pas faire quelque chose de mal vis-à-vis de Dieu ? Et c'est légitime. Mais ma question, c'est est-ce que la lecture de la parole de Dieu est plus basée sur la peur de faire mal, de mal faire, que sur l'amour de Dieu ? Comment tu lis la Bible ? Comment nous lisons la Bible ? Comment nous interprétons la Bible ? Et bien souvent, on a été enseigné dans une lecture de la parole de Dieu plus basée sur la peur de mal faire plutôt que sur l'amour de Dieu. Enfin, la systématisation va condamner l'autre, parce que l'autre n'est pas spirituel, parce qu'il ne rentre pas dans mon système de pensée. Et le mépriser. Tout ce qui ne ressemble pas à ce que j'ai expérimenté n'est pas spirituel. Elle enferme l'Église dans un seul modèle. On est dans des habitudes. Alors, ayant maintenant décrit ça, on comprend ensemble que la systématisation, même si elle peut avoir des effets intéressants, elle est dangereuse. Et on a tous des systèmes de pensée qu'il va falloir qu'à un moment on fasse tomber. Vous êtes OK avec ça ? Et mon point suivant est celui-ci. Faire tomber nos principes de systématisation est un choix. Qui a mis en place le sabbat ? C'est Dieu ? On est OK avec ça. Et pourtant, les hommes ont détourné ce que Dieu a mis en place, même si c'est bon au départ. J'aimerais vous donner un exemple qui nous a été partagé par un théologien, mais qui a été l'orateur du dernier congrès à Montluçon, le congrès des pasteurs, qui s'appelle Heath Adamson. Et il est venu me chercher avec l'équipe pastorale sur cette réflexion-là. J'aimerais vous parler de l'exemple du serpent de bronze ou le serpent d'airain dans la Bible. Permettez-moi de vous lire Nombre chapitre 21, verset 8. Nombre 21, verset 8. L'Éternel lui répondit, c'est Dieu qui parle à Moïse, « Fais-toi un serpent en métal, fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Pour comprendre le contexte, le peuple a désobéi et à un moment, il y a une terrible plaie qui s'abat sur le camp et les serpents qui arrivent et il y a une solution qui est proposée par Dieu. Ok ? Et cette solution, c'est ce serpent de bronze. Ok. Maintenant, je vous propose de lire un autre texte qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4. La Bible nous dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et regardez, et mis en pièces, qu'est-ce qu'il a été mis en pièces ? Le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appela Nehushtan. Comment on est capable de détourner ce que Dieu a créé pour en faire devenir une idole ? Et c'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Et à un moment, il faut faire tomber cette idole. Parce que dans nos vies, c'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Le problème, ce n'est pas ce qui a été mis en place au début, ce n'est pas le système qui a été mis en place, c'est la systématisation. C'est la façon dont on l'utilise. En fait, on n'utilise plus le système pour quoi il a été fait, on l'utilise simplement pour nous rassurer. Maintenant, la question, et on le voit bien ici, il a fallu faire tomber. Mais pourtant, c'est quelque chose que Dieu avait institué. Mais il va falloir le faire tomber, parce que c'est quelque chose qui t'empêche et qui te bloque dans ta vie avec Dieu. Et j'aimerais arriver à mon point qui est le plus important, me semble-t-il. La réalité, c'est que Dieu nous apprend à faire tomber nos principes et nos lois, notre façon de principe, nos systématisations, au profit d'une relation avec le qui. Je m'explique autrement. La question n'est pas de savoir le comment, mais de savoir le qui. La question n'est pas de savoir le système, comment il fonctionne, mais surtout qui l'a mis en place et pour qui il est utile. Parce que si le système prend la place du qui, alors on tombe dans la systématisation. Et c'est bien souvent ce qui arrive dans les églises. Est-ce que je connais Jésus à travers ses principes ou à travers sa personne ? Partie suivante, ce n'est pas une question du comment, mais du qui. Le système est au service de la personne de Jésus quand on parle du sabbat. Quand nous plaçons Jésus au service du système, il y a un déséquilibre. Et la Bible nous dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Permettez-moi maintenant de passer sur une touche un peu plus positive, parce que là j'étais un petit peu négatif, mais vous êtes toujours avec moi ? En fait, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que si Dieu a mis en place le sabbat, c'est parce que Dieu savait qu'on avait besoin de se reposer. Dieu savait qu'on avait besoin de ce jour de off. Dieu pensait à toi quand il a mis en place le sabbat. Dieu pensait à l'homme qu'il avait créé. Dieu pensait à nous. Et la réalité, c'est qu'on a parfois tordu le sens des Écritures. Regardez, Jésus a-t-il guéri toujours de la même façon ? Un coup, Jésus, il guérit, il arrive et il touche les gens. Un coup, Jésus, il arrive, il met, alors celui-là, c'est improbable, la salive, la boue dans les yeux. Un coup, Jésus, il dit un mot, et la personne, elle est guérie. Un coup, Jésus, il n'est même pas présent, et la personne, elle est guérie. Un coup, Jésus, il arrive, et elle est déjà morte. Mais il a guéri après. Il a ressuscité après. Hashtag Lazare. Jésus n'a pas guéri de manière systématique. Pourquoi ? Parce que si Jésus avait toujours les choses de la même façon, ben on aurait fait pareil ici à l'église. Si Jésus avait dit, voilà la façon dont il faut guérir. Petit 1, approchez-vous tous devant. Petit 2, quelqu'un va lever la main. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Mais Jésus, ici, il a guéri, il a agi à chacun d'entre vous, il a agi à sa façon en fonction de vous, là. Vous êtes tous un miracle de Dieu, différent de vous, de moi. On n'a pas les mêmes expériences ni la même vie. Jésus est spécifique pour éviter la ritualisation. Mais une règle qui est super importante, c'est que Jésus a toujours fait passer la personne avant le système. Regardez, Matthieu 22, 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et ça, franchement, je crois que c'est mon verset préféré. Mais il y en a plein d'autres qui sont très bien. Je ne veux pas systématiser. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Relation, personne. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, la personne, comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus replace la personne au centre. D'abord la personne de Dieu et ensuite la personne nous. La relation est toujours plus importante que le résultat. La personne, c'est pourquoi le système a été mis en place. Et j'arrive à la conclusion, je vais demander à l'équipe de monter. Mais notre verset de départ, quand on parlait du sabbat, on comprenait quelque chose de vraiment important, c'est que quand Jésus parle du sabbat, ça a des implications plus larges que simplement le sabbat. Suivez-moi, vous inquiétez pas, ils vont monter, ils ont l'habitude, mais c'est systématique. Vous savez quoi ? Je crois que le verset concernant le sabbat s'applique à chacun d'entre nous quand on a des principes de raisonnement pour nous rappeler une chose. C'est que Dieu est un Dieu d'amour et que ce Dieu d'amour pense à toi et qu'il ne te met pas des règles de fonctionnement pour simplement te dire c'est comme ça que tu dois faire. S'il te met des choses, s'il t'encourage à aller dans un sens, c'est parce qu'il t'aime tellement. Il a un tel amour pour toi qu'il sait ce qui est bon. Et on ne doit jamais remplacer les systèmes par l'amour de Dieu. Par contre, quand tu mets le prisme de l'amour de Dieu dans un principe divin, ça va faire la différence. Pose-toi la question, quand j'applique un principe sur quelqu'un qui vient de chuter, quelqu'un qui vient de se planter, ou une situation où j'ai envie d'analyser la situation. Il y a un conflit, vous savez, c'est déjà arrivé ça. Il y a un conflit entre deux personnes et il y a une tierce personne qui arrive et qui donne son avis sur le conflit. Ah, moi je pense que c'est ça, ouais. Et si tu passais juste ce que tu penses à travers le prisme de l'amour de Dieu, est-ce que tu dirais la même chose ? Je recommence. Et si tu plaçais ce que tu allais dire, ce que tu vas penser même à travers le prisme de l'amour de Dieu, est-ce que tu aurais dit la même chose ? L'amour de Dieu pour les deux parties. L'amour de Dieu pour la personne qui souffre. Et si nos façons de penser devaient être bouleversées pour découvrir vraiment l'amour de Dieu ? Dire « Seigneur, j'en ai marre de mes principes, etc. Je veux découvrir non pas les principes, mais je veux découvrir celui qui a mis les principes en place et pourquoi il les a mis en place pour ma vie. » La Bible nous dit, et vous connaissez ce texte certainement, dans 1 Corinthiens 13, « Si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Écoutez même, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toutes les connaissances, si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule chose qui se reproduit de manière systématique. C'est l'amour de Dieu. Parce que tu peux être au plus loin, au plus profond, son amour sera toujours là, sa main sera toujours tendue. La Bible nous dit, on l'a entendu tout à l'heure, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit également, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps là simplement de réflexion, d'introspection et de se dire, Seigneur, dans quel principe, dans quel système j'ai toujours grandi ou j'ai toujours pensé ou même analysé les situations, même ma propre situation. En disant, c'est comme ça que ça doit se résoudre, c'est de cette façon que ça doit se passer. Et si ce matin, on disait à Dieu, Seigneur, j'ai tellement mis des systèmes partout. Et du coup, je les applique à chaque fois. Ce matin, j'ai besoin de redécouvrir ma relation avec Jésus pour que je comprenne où tu veux m'amener. Il y a une possibilité ce matin de dire, Seigneur, je veux faire tomber tout ce qui m'empêche d'avancer. Je veux découvrir le qui, même si je ne comprends pas le comment. Je veux découvrir Jésus au milieu de ma tempête, même si je n'ai pas les explications et même si ça devrait se dérouler comme ça. Seigneur, je veux croire que tu dors dans la barque avec moi. Est-ce qu'on peut revenir simplement dans sa présence ? Je viens dans ta présence. Dans ta présence, je me mets juste à tes pieds. Je veux me laisser encore éblouir par sa présence. Seigneur, je veux être attentif ce matin. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici. On est tous devant toi avec des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer en se disant c'est comme ça que ça devrait se passer. On a tous systématisé d'une façon ou d'une autre. Mais ce matin, on a un temps de cœur à cœur où on peut redécouvrir le cœur de Jésus. Celui qui nous amène à comprendre le qui et non le comment. Celui qui nous amène à cet amour divin qui, au milieu de nos difficultés, nous amène à comprendre que tu es le Dieu qui répond, qui agit, même quand je ne le vois pas. Seigneur, je veux revenir au cœur de ta présence ce matin. Je veux entendre ton cœur battre. Seigneur, je veux sortir de mes principes et je te demande pardon quand j'ai accusé, détruit, méprisé des gens parce que je pensais avoir raison sur des situations. Je te demande pardon quand, Seigneur, j'ai décidé que c'était comme ça que ça devait se passer et que je ne suis pas venu à tes pieds pour entendre ce que toi, tu voulais dire. Je te demande pardon à chaque fois qu'avec l'Église, on a cassé des gens juste parce qu'ils ne rentraient pas dans notre mode de pensée à nous, dans notre façon de faire. Ce matin, on a besoin d'entendre ton cœur battre sur chaque situation. Merci Jésus, parce que tu te révèles à nous, à chacun d'entre nous, avec amour et bienveillance et compassion et miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là.
peut remercier Jésus dans cette salle pour ce qu'on a vécu ce matin. Merci à Jésus aussi pour ce qu'il a déposé sur le cœur de PS. Alors qu'on puisse garder ça, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine, de manière systématique, mais pas pour entretenir une tradition, mais pour entretenir notre relation avec Jésus. Amen. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.